Radio Foot International,
Sofiane Amazian.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau Radio Foot International. Au sommaire ce mardi, cap sur l'Espagne, où le FC Barcelone a flambé en tête du classement pendant plusieurs mois. Oui, mais voilà, la grisaille de novembre a eu raison. Des joueurs d'Hansi Flick, toujours leader, mais dont le trône est grandement menacé par son rival de toujours, le Real Madrid. Le simple coup de moins bien ou véritable petite crise, la méthode du coach allemand est-elle vouée à durer? Eh bien, on tentera d'y répondre le plus précisément possible aujourd'hui, avec notamment Philippe Doucet autour de la table. Bonjour Philippe.
Bonjour Sofiane.
Vous avez des réponses pour les mots du Barça? Oui, vous appelez docteur aujourd'hui?
Oui, pas inquiet.
Pas inquiet, on vous sent serein.
Pas inquiet, oui.
Ça rassurera les fans du Barça. qui sont beaucoup à nous écouter sur le continent africain. Le Barça qui a d'ailleurs fêté il y a quelques jours son 125e anniversaire, et ça tombe bien en France. Un club du Nord a également soufflé quelques bougies, 80 pour être exact. Lille a 80 ans, l'occasion de parler de ce livre hommage paru aux éditions Amphora, Losque, 80 ans d'histoire et de fierté. Maxime Pousset, l'auteur de cet ouvrage, sera avec nous en direct par téléphone. J'imagine que vous avez préparé beaucoup de questions. Ludovic Duchesne, Chérif Guémour, messieurs, bonjour.
Salut, Sofiane. Ouais, ça m'intéresse. Le conducteur est bien, on va rester.
Ah, bon, parfait, vous validez le conducteur. Mais je vous ai vu aussi bien bouquiner le livre de Maxime Pousset.
Ouais, super intéressant.
Bon, tant mieux, ça donne l'eau à la bouche. Avant de se remémorer le passé, cap sur le présent, messieurs. John Textor a le sourire. Son club, Botafogo, a remporté la Copa Libertadores. On ne perd pas plus de temps. Radio Foot, c'est parti. Fait au terme d'un match au scénario complètement fou, Botafogo, réduit à 10 dès la deuxième minute de jeu, oui, a remporté sa toute première Copa Libertadores dans un duel 100% brésilien face à l'Atlético Mineiro. Victoire 3 buts à 1, premier succès majeur pour l'homme d'affaires américain et propriétaire du club John Textor, qui n'a évidemment pas caché sa joie au micro des médias brésiliens quelques minutes à peine après avoir soulevé le trophée.
J'ai grandi en Floride, qui entretient des relations fortes avec l'Amérique du Sud. Ce qui se passe est phénoménal. Nous avons commis beaucoup d'erreurs en voulant reprendre l'équipe, mais nous avons fait plus de bonnes choses que de mauvaises. C'est ce que j'avais dit lors de la rencontre face à Fortaleza il y a quelques années. Les supporters attendent ce moment depuis longtemps et ils le méritent. Le point commun à tous les clubs au Brésil, c'est la connexion très forte entre la population et l'équipe qu'elle soutient. On le voit partout. Mais Botafogo a été longtemps privé de ces moments de bonheur. Le club a connu tellement de péripéties. Donc, la joie que je vois sur les visages fait plaisir. On a pris un rouge en tout début de match. Tout le monde pensait que c'était foutu pour nous. Mais les joueurs ont montré leur force mentale, alors que beaucoup en doutaient. Ils y ont cru jusqu'au bout.
John Textor. Avant de revenir sur l'aventure de John Textor, qui est aussi également actionnaire majoritaire à l'Olympique Lyonnais en France, messieurs, rapidement un mot sur la rencontre. C'était quand même une finale de Coupe Continentale, l'équivalent de la Ligue des Champions en Europe. C'est ce qui se passe en Amérique du Sud. Et c'est vrai qu'on dit souvent que le football est vecteur d'émotion. Là, on y est complètement. Dès la deuxième minute, une équipe qui se retrouve à 10 contre 11. Finalement, c'est cette équipe-là qui va gagner 3-1 dans un stade monumental qui était vraiment... parfaitement acquis à la cause, en tout cas des deux équipes qui étaient embrasées de la première à la dernière minute. Qu'est-ce que vous avez pensé, messieurs, du match, Ludovic, en premier?
Quand tu joues toute une partie à 10, parce que je crois que c'était après 30 secondes, ouais. Un geste complètement fou, hein, du joueur de Botafogo, C'est assez fou d'aller gagner ce match 3-1, même si c'est vrai que sur le match, on n'a pas du tout reconnu l'Atlético Mineiro. Et après, gagner en Argentine, je pense que pour un club brésilien, ça a une saveur toute particulière. Pour Botafogo, c'est en plus la première fois, donc ça sera totalement inoubliable. Mais sur le match, voilà, ceux qui devaient répondre, je crois que c'est Enrique qui a répondu présent une nouvelle fois. Voilà, les hommes forts ont marqué. Et c'est une saison pleine, hein, pour Botafogo, qui est en plus leader du championnat brésilien. Donc ils ont confirmé sur cette finale qui avait quand même tellement mal commencé, mais quand tu joues vraiment tout un match à 10, ouais, ça ressemble à un exploit quand même.
Ah bah c'est complètement un exploit. Luis Enrique qui est un peu la pépite, hein, de Botafogo, Sheriff Gamour. De l'autre côté, il y avait Hulk, et en regardant un petit peu les meilleurs moments, c'est vrai qu'on se dit Hulk, qui est un joueur qui a longtemps joué en Europe, qui est encore très 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 performant. Alors cette fois, il a pas remporté la Copa Libertadores, mais avoir encore un tel joueur sur la pelouse, c'est
beau. Il a été très bon. La plupart des actions dangereuses, c'est lui qui les a menées contre Botafogo. Ce qui m'a frappé, moi, c'est l'énorme émotion du côté Botafogo. Les joueurs, l'entraîneur, les supporters, évidemment. Textor n'a pas pleuré, mais bon, avec le gros chèque qu'il avait, les 23 millions de dollars, on va en reparler.
C'est ça qui l'a fait pleurer.
Il était pas loin. Voilà. Il a pleuré après la remise du chèque.
Mais comment dire ? On pourrait dire que dans le suivi des dernières saisons, les clubs brésiliens commencent à truster mais littéralement la Copa Libertadores. Ouais. On a vu des finales 100% brésiliennes, c'était pas la première fois,
c'est vrai.
Voilà, sauf que Botafogo ne l'avait jamais gagné. Et évidemment, ils ont atteint leur nirvana, ça tombe au bon moment, comme disait Ludovic, ils sont leaders du championnat brésilien. C'est une belle équipe, il n'y a pas que Luis Fernandez, il y a aussi Igor Jesus, deux internationaux, ouais. Ils sont très jeunes, ils sont talentueux. Bon, ils vont pas rester longtemps au Brésil, ça c'est garanti. Et puis surtout, ce qui m'a surpris, c'est la gestion des émotions. Ils se retrouvent à 10 au bout de 2 minutes. Ils marquent quand même le premier but. Le deuxième, c'est un fait de jeu. Il y a une faute absolument dingue de l'Atlético Mineiro. Donc pénalty, là, il y a 2-0. Ils ont fait le break. Ils ont failli se faire remonter. Il y a une demi-heure où ils subissent. Mais évidemment, le dernier but, quand tout le monde est à l'attaque, ils bénéficient d'un contre et ils marquent le troisième but. Mais une fois de plus... L'émotion de ce club, qui est un club légendaire par les joueurs qu'il a eu, Didi, Jair Zino.
Oui, bien sûr.
Voilà, Garrincha, bon, c'est un club emblématique. Sauf que.
Il manquait quelque chose.
Voilà, il manquait l'étoile.
On va dire que l'anomalie a été effacée.
L'étoile, ils l'ont sur le maillot, mais il n'avait pas la vraie étoile de champion d'Amérique du Sud.
Ils n'ont pas été souvent titrés. Je regardais même dans le championnat brésilien.
Ouais.
Très peu de titres, en fait. Un club que tout le monde connaît dans le monde entier, Botafogo.
Ouais.
Tout le monde connaît ce club.
D'où je disais l'anomalie.
Mais même en championnat brésilien, s'ils sont champions, ce qui est. Ils sont bien partis, ce sera que la troisième fois.
Voilà.
Donc, ils sont vraiment peu titrés.
Ouais.
Quand John Textor arrive, il reprend un club qui est en difficulté. Ouais. Ça me permet d'avancer dans le débat. Philippe Doucet, John Textor, il lui a fallu à peine 2-3 ans pour faire de Botafogo un club qui trustait les dernières places du classement et donc frôlait la deuxième, 18 mois exactement, était même en deuxième division, à devenir la meilleure équipe du continent sud-américain. Ça, c'est un succès énorme à mettre au crédit de John Textor.
Oui, alors je ne sais pas si c'est au crédit dans le sens financier du terme, parce que si ça se trouve, ça lui a coûté une fortune et que le club va être en radis à vie.
On va lui laisser le bénéfice du doute pour l'instant.
Non, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas avec quels moyens. Vous savez, c'est une vraie problématique.
Oui, bien sûr.
Qu'aujourd'hui, on est toujours à s'extasier devant telle équipe, telle autre, etc. Et bien, parfois, il y en a une qui a construit ça sur du sable et puis le club va s'effondrer totalement derrière, qui est tout à fait possible.
En tout cas, pour l'instant, il ne s'est pas effondré.
Pour l'instant, il ne l'est pas.
Il ne s'est pas effondré, le club.
Non, pas du tout. Non, pour l'instant, pas du tout.
Il vient d'arriver.
Ni Lyon, ni Molenbeek. Pour l'instant, personne ne s'est effondré.
Au contraire.
Mais on a quelques doutes.
On a quelques doutes
sur la viabilité globale du projet.
Mais c'est une grosse réussite quand même, Philippe.
Sûrement. Enfin, moi, je malheureusement.
Non, sportivement, l'équipe se tient.
Malheureusement, sportivement, j'ai du mal à m'extasier devant le niveau de l'Amérique du Sud. Je trouve que c'est
autre chose.
C'est de plus en plus bas.
On est sur un palmarès plus que sur le.
Ça commence à ressembler à une success story, moi, je trouve. C'est vrai que les premiers pas de John Textor en France, m'ont effrayé avec des déclarations. On avait l'impression qu'il était complètement à l'envers. C'est vrai que je ramène ça à Lyon, mais il nous parlait...
La bisbille avec Jean-Michel Aulas.
Attendez-nous, la Ligue 2, on n'ira jamais. Ils étaient derniers. Et ça a duré quand même quelques semaines. Donc, quand on voit ce qu'il a... On va, sans doute, on va reparler de Lyon aussi. Quand on voit ce qu'il est en train de faire à Lyon,
ce qu'il a fait avec Botafogo, ça commence à ressembler à quelque chose d'extrêmement sérieux.
Ouais.
Et c'est tout sauf n'importe quoi. Moi, je prends ce qui se passe en ce moment à l'OL. Je ne parle pas du financier. Bon, là, ils ont gagné énormément d'argent.
C'est quand même
d'argent.
Important. Hein, dans
oui,
tu as
raison. Mais là, ils ont gagné beaucoup, beaucoup d'argent aussi. Le mondial des clubs où ils vont participer, c'est 50 millions d'euros. Tu prends d'un coup. Donc, ils vont gagner aussi beaucoup d'argent. Mais à Lyon, tous les postes sont doublés.
On estime à 70 millions, là, cette victoire, elle va lui permettre d'avoir 70 millions, les 20 millions de la finale et les 50 millions.
Après, c'est un jeu d'argent de joueurs entre ces clubs.
Oui, oui.
Ça, on peut le contester, mais c'est maintenant le football moderne. Mais en tout cas, ce qu'il fait dans ces clubs-là, ben, c'est du bon boulot.
Il y a une chose sur laquelle on ne triche pas, et là, je parle de Botafogo, je ne parle pas de Lyon, c'est les résultats et le palmarès et le fond de jeu. Moi non plus, je ne m'extasie pas, je vois la finale. De toute façon, on sait de toute façon que le niveau global, les clubs sud-américains, il a considérablement baissé. D'ailleurs, il ne reste plus que les Argentins, les Brésiliens. Posez-vous la question.
Et apparemment, il ne reste que les Brésiliens même. Parce que
maintenant, c'est plus que les Brésiliens.
Ça fait 6 ans que ça dure.
Ouais,
les Brésiliens
ça fait 6 ans
dominent
que ça dure.
Complètement,
ouais,
ce qui est surprenant, parce que ce n'était pas vraiment le cas avant.
Bah, parce que le Brésil, c'est le pays économiquement le plus riche.
Qui marche mieux, ouais.
Ouais, ils ont changé la structure carrément capitalistique, privée à 100% des clubs. Donc, il y a de l'endettement. Attention, comme tu dis, aux catastrophes qui devraient pas tarder. Et surtout, le Brésil...
Il annonce un crack boursier, attention.
Le Brésil est une pompe aspirante. Alors, de tous les talents sud-américains, ça s'est prouvé. On pouvait regarder les deux effectifs de deux équipes. Il y a des Argentins, des Équatoriens, des Colombiens, des Mexicains. Il n'y a pas de problème. Des Argentins qui avancent très restreint. Et puis même, ils attirent des Européens de paille. Alors, ce n'est pas le premier choix, mais ils ont fait revenir Télès quand même au pays. Alors qu'il était... bon, c'est un bon joueur. On ne va pas tous les citer. Donc, ils bénéficient d'une conjoncture économique favorable. Et on peut mettre que ça au crédit de Textor, pour l'instant.
J'avance sur Botafogo et l'Olympique Lyonnais. Il y a une phrase qui a fait un peu polémique ces dernières heures sur les réseaux sociaux. C'est lorsque John Textor explique que le sacre et ce moment qu'il a vécu, c'est plus important que ce qu'il pourrait vivre en Europe. C'est une phrase un peu cachée pour dire que ce qu'il a vécu avec Botafogo... Il va certainement pas vivre de telles émotions avec l'Olympique Lyonnais. On avait l'impression que Lyon était le projet numéro 1 de Textor. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire
peut-être que ça reste, Sofiane. Après, s'il veut dire par là qu'il va pas gagner tout de suite la Ligue des Champions avec Lyon, on est d'accord. Là, je pense que là-dessus,
oui, c'est aucun... vrai qu'on le prend au mot.
Non, il y a aucun souci. Mais qu'il ait vécu une grande émotion, il a eu des gros soucis avec la fédération brésilienne. Il y a eu des déclarations, il était mis au banc. Il a été très très loin en disant que.
Et je suis pas sûr. Condamné.
Et je suis pas sûr qu'il avait tort de dire que il y a énormément de matchs truqués au Brésil,
absolument.
etc. Donc, il s'est rendu compte de ça. Ce qu'il fait aussi à Lyon, je pense que c'est du très bon boulot. Et avant d'avoir les mêmes résultats et de gagner une Ligue des Champions ou même une Ligue Europa, il a déjà ramené Lyon en Coupe d'Europe, ce qui est déjà bien. Mais après, c'est une autre histoire.
Chérif, allez-y.
Pierre Sage, c'est son idée. Il faudrait peut-être pas l'oublier.
Absolument.
Alors, c'est peut-être une catastrophe. Pareil, on attend l'effondrement. Il va sans doute arriver. Ok, d'accord.
Non, c'est pas une catastrophe.
Il parle du financier.
Parle du financier. Pierre Sage.
Parce que Lyon est pour l'instant rétrogradé
à
titre provisoire en Ligue 2. Il ne faut pas l'oublier.
Mais Pierre Sage, le renouveau lyonnais, c'est Pierre Sage.
C'est pas important, ils sont juste rétrogradés, c'est pas énorme.
Non, c'est pas
à titre provisoire.
À titre provisoire.
Je veux dire, il n'est pas allé chercher les vieux routiers, les Antonetti.
Sur les choix sportifs, il s'est pour l'instant très peu trompé. Sur les choix financiers, il y a une épée de Damoclès au-dessus de l'Olympique Lyonnais.
Non, mais bien sûr, on n'est pas naïf.
Après, c'est sûr qu'il y a un souci avec la DNCG en France. En tout cas, lui a un souci avec la. Je pense qu'il a son esprit américain qu'il essaye d'amener en France et c'est pas gagné. Mais c'est un jeu entre plusieurs clubs, en fait. Aujourd'hui, c'est ça. C'est exactement ce qui se passe. Il voit dans la globalité. Donc, quand il leur dit, ouais, mais moi, je vais vendre des parts de Crystal Palace. Donc, j'ai vendu l'équipe féminine.
Ça rassure pas les Français, ça.
DNCG, elle s'en moque, en fait. C'est comme
si tu dis
aux impôts, non, mais attendez, moi, je vais vendre ma voiture et puis j'ai mon neveu.
J'aimerais bien.
J'ai mon neveu qui. En fait, ils s'en moquent. Ils ont le résultat. Qui est écrit.
Ils sont durs.
Ils ont la dette qui est assez importante. Ouais. Donc la DNCG, c'est pas les garanties qu'ils ont envie d'entendre.
Non, bien sûr.
Ce qui est sûr, c'est que l'argent, il va transvaser des argents du Brésil en Belgique en passant par la France.
Il va y avoir un montage.
Mais oui, bien sûr.
Philippe, rapidement, pour terminer ce débat, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur monsieur John Textor ?
Non, j'attends de voir, mais j'ai quelques inquiétudes et je mesure, si vous voulez, à travers ce genre de personnage, combien la multipropriété, qui apparemment fait grand bonheur de Ludovic, mais c'est une honte pour le football et c'est le prochain énorme scandale du football. Parce que ça va évidemment ruiner les clubs, ruiner les compétitions. fausser complètement les. Ça va, c'est un, on va vers un football catastrophique.
Le débat
et,
sur
et Textor, et Textor en est un bon, malheureusement, un non. bon modèle parce qu'il fait des transferts complètement bidons entre ses clubs.
Ah bah, c'est aussi le principe.
Donc c'est un jeu de bonneteau. Si à la limite la DNCG c'est à telle date, il fait ça dans un sens, puis un mois après la DNCG en Belgique, et puis donc on fait à l'inverse, etc.
Bon, la Thiago
c'est du bonneteau.
Bon, messieurs,
c'est du bonneteau et on sait comment ça finira. Bon. C'est un fonds américain qui reprendra le club parce que Textor aura explosé.
Bien sûr, et on fera ce débat dans quelques temps si Lyon est malheureusement rétrogradé en deuxième division. Mais voilà, Botafogo vainqueur donc de cette fameuse Coupe Continentale, la Copa Libertadores, tout près de Glany, Ludwig Duchesne, vous le disiez, le championnat. On est à deux journées de la fin. Eh bien, ce parcours, ça pourrait inspirer un club en Espagne. Je vais dire le FC Barcelone, par exemple, qui, ce club aussi, est bien lancé en Ligue des Champions. Le Barça est toujours leader de Liga, mais avec un tout petit peu moins d'avance qu'il y a un mois.
La balle de but, la pour Las Palmas, c'est pour Sandro face à Inigo. Sandro le tire. Oh, quel but, quelle frappe croisée magnifique. La surprise se confirme. Bien en première mi-temps, et bien Las Palmas est en train de faire trébucher le Barça. Est-ce qu'il va la tenter? La frappe, l'égalisation de la part de Rafinha. Les Catalans reviennent à un partout. Fabio Silva qui est passé devant. Fabio Silva, le tir enchaîné. Le deuxième. Las Palmas ne s'arrête pas là. Deuxième but à Montjuïc. Et 2-1 pour le 17ème de la Liga.
Certains pensaient déjà le titre joué au début de l'automne. Le Barça roulait à ce moment-là sur ses adversaires en championnat et avait relégué très loin ses principaux concurrents. Et puis un coup de mou lors de ce mois de novembre, une seule victoire en championnat, un nul, et surtout deux défaites, dont celle du week-end dernier face à Las Palmas sur le score de 2-1. Le Barça n'a plus qu'un point d'avance sur le Real Madrid. Madrid qui a un match en retard. On va d'abord écouter Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, qui tente d'expliquer ce coup de moins bien par rapport à la jeunesse de son effectif.
L'équipe essaye de produire du jeu, d'avoir la possession, de créer des occasions. C'est notre philosophie. Mais ce qui compte en football, c'est de marquer des buts. Finalement, ça ne dépend que de nous. Nous sommes responsables de nos victoires et de nos défaites. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est qu'on manque d'efficacité, de détermination pour conclure nos occasions. Nous devons progresser sur ce point. Et c'est normal, l'équipe est très jeune. C'est la plus jeune de la Liga et elle a encore besoin d'apprendre.
Bon, messieurs, le Barça qui va moins bien, qui s'est un peu grippé, mais finalement, qui ne se grippe pas quand il fait un peu froid au mois de novembre? Est-ce qu'on est simplement dans un trou d'air, puisque le Barça a tellement bien commencé cette nouvelle saison 2024-2025, ou alors on peut commencer à parler d'une mini-crise du côté des Blaugrana, Ludovic Duchesne? Oula, je sens que votre avis est tranché.
Non, mais mini-crise, non. Après, c'est vrai qu'il a, quand tu gagnes pas un match contre la Real Sociedad, Las Palmas ou le Celta Vigo, bon, c'est un petit peu embêtant. Ils avaient de l'avance, ils l'ont perdu. Donc voilà, mais Hansi Flick travaille remarquablement bien. Ça se confirme en Ligue des Champions. Et même s'ils ont trois derniers matchs de costaud contre Dortmund, Benfica ou l'Atalanta. Mais non, ça travaille bien, il ne faut pas oublier le Real. C'est marrant parce que si le Barça est l'équipe la plus jeune... Je pense que le Real, je n'ai pas regardé, mais doit être l'équipe la plus vieille. Donc là, il y a une vraie opposition de style. Mais non, le Real Madrid, malgré tous ses blessés, est revenu, va faire le jeu. L'Atlético, attention, est derrière. Deux
points. On en parlera, l'Atlético.
Ils sont vraiment bien classés. Mais pour moi, il n'y a rien de grave. Et ça correspond. Mais ça doit être un hasard. Yamal s'est blessé, 3-4 matchs. Et comme par hasard, ils n'en ont pas gagné un. Enfin, sauf contre Brest.
Une Yamal dépendance. Mais, ah, vous lisez mes questions. Hein.
Ah, c'est parce que tu as marqué. Pardon, je te promets, je n'ai pas lu.
Non, il n'y a pas de problème.
Non, mais en tout cas, c'est le constat qu'on peut faire. Il est revenu contre Las Palmas, mais il n'a pas marqué. Bon, il n'a que 17 ans, c'est pour ça que c'est complètement fou quand on parle de Yamal. Mais c'est pour dire que, pour moi, il n'y a pas de crise. Attention aussi dans ces clubs-là, quand tu ne gagnes pas pendant 3 matchs, ça peut aller très très vite d'un côté comme de l'autre.
C'est pour ça, on est simplement sur un petit trou d'air alors.
Bah, il n'y a pas une équipe qui n'a pas de trou d'air. Pas encore Liverpool, mais ça viendra. Ils auront forcément un moment creux.
Châteauroux, un gros trou
d'air. Ça n'existe pas. Châteauroux, un long trou d'air. Ça fait 5 ans que ça dure.
Salut les auditeurs qui sont fans de Châteauroux. Bah, bravo.
Je vous embrasse.
Non, bah, sans plaisanter, toutes les équipes ont un trou d'air. De plus en plus, je dirais, parce que aujourd'hui, les grands clubs, en fait, n'arrivent plus à faire des préparations sérieuses. Parce qu'il y a des tournées, parce qu'il y a des tas de choses, les matchs internationaux dans tous les sens, le mois de juin est bourré, etc. Donc tous les joueurs de haut niveau ont souvent, vers l'automne, une difficulté. Le Real l'a eu avant le Barça. Oui. maintenant c'est le Barça, c'est Manchester City, etc. Voilà, il y a des cycles de plus en plus.
Après, on ne va pas comparer City et le Barça. On n'est peut-être pas dans les mêmes.
Justement, c'est là où le Barça, ce n'est pas très, très grave. Ouais. Le match, c'est le Tavigo, ils auraient dû le gagner 10 fois, 3-0. Bon, voilà, finalement, ils font nul parce que Koundé a fait n'importe quoi sur une action. Et puis voilà, ça a débouché sur ça. Ça peut arriver. Je ne pense pas que ce soit dramatique. Je n'ai pas vu le match de Las Palmas, mais j'ai vu celui de Celta Vigo. Franchement, bon. C'est vraiment tout sauf inquiétant.
C'est anecdotique.
C'est tout sauf inquiétant. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'il y a 2 ans, le Barça, après tout, a été champion.
Oui.
Et c'était une équipe pas très intéressante, qui n'était pas vraiment dans la tradition, qui s'est accrochée pour faire un titre. Okay. Elle a pu faire un titre, au dépens d'ailleurs de la Coupe d'Europe, où elle n'était pas du tout dans le coup. Je pense que cette année, on peut regarder le Barça complètement différemment. Il y a eu 3 mois très satisfaisants. C'est déjà énorme. Et augurer d'une saison qui devrait être beaucoup plus correcte, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent être devancés par le Real, oui, so what,
so what. C'est le jeu de la Ligue, c'est possible.
Bon, bah ouais.
Chérivez-moi.
Alors, on va rappeler que le Barça a très bien commencé sa saison parce qu'il y avait 2 joueurs et demi, parce que Yamal est blessé, donc on sait, mais il a fait un très bon début de saison. Mais surtout Rafinha qui a pris une dimension extraordinaire, il est passé capitaine. Jamais j'aurais pu m'imaginer que Rafinha.
C'est un des meilleurs joueurs de cette équipe.
Et il est excellent.
Ah, ouais. Il a encore marqué ce week-end.
Et Lewandowski, qui pour moi était cramé l'année dernière. C'était
15 buts en 15 matchs.
Ouais, ouais, c'était bye bye Lévy, merci pour tout, mais non. Et là, il m'épate, mais c'est hallucinant. Donc, avec 2 joueurs et demi qui marchent sur l'eau, allez, disons 3, il y avait la bonne dynamique. Deuxièmement, il y a le style Flick. Alors, je vais être direct, Flick, c'est l'esprit Bundesliga. C'est-à-dire jeu très vertical, tourné vers l'avant. Il y a le risque assumé du déséquilibre derrière, puisque c'est une équipe qui penche devant et qui, malheureusement, s'expose. Et là, le dernier match contre Las Palmas, les 2 buts qu'ils prennent, c'est sur des contres. Oui. Évidemment, il y a un mauvais alignement, mais il y a eu d'autres actions chaudes. Mais c'est normal, c'est un risque assumé. La troisième chose, c'est qu'on est en train de se rendre compte que, mine de rien, Ter Stegen, il a sauvé la baraque pendant des saisons et des saisons. Maintenant, on a Iñaki Peña, qui est un très bon gardien.
Qui est le deuxième gardien et qui a été promu numéro 1, alors qu'on pensait que Chesney, qui avait été recruté, allait lui prendre sa place. Finalement, voilà. on est resté dans une...
Ah ouais, oui. Voilà, mais oui. dans les situations difficiles, oui, oui. Ter Stegen a toujours sauvé la baraque. Et le dernier truc aussi, et là, par contre, c'est un petit peu inquiétant, c'est qu'on a précipité, à mon sens, trop rapidement les jeunes pousses du Barça qui cassent régulièrement. Les Gavi, les Pedri,
Koubarsi,
donc voilà, c'est donc il commence à casser.
Après Sofiane, juste pour rajouter, le déclassement pour moi, il est plus sur ces dernières années parce que je regardais le palmarès. Depuis 5 ans, le Barça n'a été champion qu'une fois.
Ouais.
Donc ça, l'anomalie, elle est là en fait. Ils ont traversé un vrai trou d'air et je trouve que là, justement, ils sont revenus à un très très bon niveau. Voilà, au niveau européen, on va sans doute reparler du Barça en Ligue des Champions. Ils vont peut-être aller très très loin parce que c'est vrai que cette attaque.
Ils sont 3e pour l'instant de la phase de Rafinha, Ligue de la Ligue des Champions.
Lewandowski, Yamal. Pas beaucoup d'équivalents.
Non,
quand
non.
On voit ce que ces 3-là... Et Rafinha, je partage totalement ce que dit Chérif. Je trouve qu'il a pris une autre dimension. Donc là, on a une attaque de fou.
Ouais.
Donc voilà, ils sont là. L'anomalie, c'était avant. Mais enfin, non, le Barça, je trouve, est revenu à son niveau.
Alors, ce qui est intéressant, c'est sur la méthode Hansi Flick. Vous parlez de la fragilité, peut-être, de certaines pousses du Barça. On sait que le jeu d'Hansi Flick est un jeu aussi qui nécessite un fort engagement physique.
Ouais.
On se souvient du Bayern, saison 2019-2020, où le Bayern roule sur tout le monde. Le Bayern remporte la Ligue des Champions. C'était une saison folle où tous les joueurs étaient à leur maximum. Mmh. Est-ce qu'il y a une limite de cette méthode au Barça quand on sait que des Pedri, des Gavi sont peut-être un peu plus fragiles? On a l'impression que sur ce mois de novembre, les blessures qui ont été accumulées ces dernières semaines, ça s'est vu sur les résultats.
C'est ce qu'on appelle la malédiction des grandes équipes. À savoir le Manchester City de Guardiola, le Milan de Sacchi ou tous les Barça. Obligation de faire le jeu, le spectacle et marquer des buts. Et donc Flick, il est rentré dans ce moule-là.
Ouais.
Temporiser, faire tourner. Non, on ne demande pas ça au Barça. À Barça, on leur demande d'attaquer, d'être toujours en mouvement, en permanence.
C'est la culture du club.
Voilà, c'est ça. Et j'ai pas en mémoire le nombre de milieux de terrain qu'ils ont, parce que même un Frankie de Jong n'est même plus titulaire.
Il était remplaçant contre la Spalmas.
Donc il doit être, je sais pas, avec Casado, enfin toute la petite bande là, il doit être, je sais pas, 6, 6 ou 7 postes, ouais.
Et Dani Olmo, qui lui est arrivé cette année, qui est titulaire.
Olmo, mais il s'est encore cassé.
Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'il y a aussi un paradoxe, finalement. On a l'impression que les recrues sont physiquement peut-être pas en adéquation avec le projet d'un flic qui est très énergivore.
Parce qu'au niveau du recrutement, le Barça est encore interdit de faire des folies. Sinon, je pense qu'il y a encore plein de joueurs. L'attractivité du Barça, elle est là. Et avec des moyens consistants, il y a énormément de grands joueurs qui rêveraient d'aller au Barça. Mais là, il n'y a plus les salaires qu'il y avait avant.
Ouais, c'est vrai. Mais après, quand il y a autant de blessés, il y a peut-être d'autres raisons. Ça,
mais vous le disiez, Yamal s'est blessé. Vous parlez d'une Yamal dépendance. Donc, c'est qu'il y a quand même une...
Parce que c'est un génie. Mais je pense qu'il y a peut-être d'autres soucis dans l'équipe qui fait qu'il y a autant de blessés. Parce que ça devient quand même une anomalie à ce niveau-là. Je prends l'exemple du Paris Saint-Germain où il n'y a pratiquement jamais de blessés.
C'est vrai. Ça même Ousmane Dembélé qui était souvent blessé au Barça.
Mais oui, donc ça travaille bien dans ce club-là à ce niveau-là. Et ça travaille mal dans d'autres domaines. Mais en tout cas, le Barça, il y a trop de blessés pour que ce soit à un moment donné le hasard.
Philippe Doucet, un avis sur la méthode flic?
C'est difficile parce qu'on n'est pas à l'entraînement tous les jours.
C'est, en fait,
c'est ça qui nous manque. On n'a pas le préparateur physique. Qui
si vous me payez le billet d'avion, je vais voir.
Oui, moi, avec plaisir. Moi aussi, je veux bien y aller tous les jours. Moi. Ça ne me dérangerait pas. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça. Donc, c'est difficile d'avoir la vision réelle. Ce qu'on a, c'est la vision apparente à travers les matchs. Oui, il y a une petite perte d'énergie sur les derniers matchs. Ça, c'est vrai. Ce qui n'est pas surprenant. Octobre, novembre sont toujours des mois un peu délicats. Les trêves internationales font un mal de chien.
On n'a pas parlé du rythme, surtout internationaux,
je ne suis pas forcément surpris qu'il y ait cette petite baisse physique éventuelle, et compte tenu effectivement du style de jeu de l'équipe, avec du pressing permanent, parce que sinon...
Et les courses ?
Et sinon on se tape... Oui, mais surtout du pressing permanent vers l'avant, parce que sinon on se tape les ouvertures adverses et le jeu en profondeur sur lequel on est en souffrance. Donc oui, effectivement, le jeu énergivore peut avoir des conséquences immédiates. Mais bon, c'est pas pour autant que ça va parvenir très vite.
Et puis ils sont toujours leaders. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont 8e quand on parle, mais ils sont toujours leaders.
Le Real va passer devant parce qu'ils ont un match en moins. Ils vont passer devant le Real. Mais bon, à ce stade de la saison, être un ou deux points derrière, c'est rien. Et d'ailleurs, ne pas négliger l'Atlético d'ailleurs.
Allez-y, messieurs, après on enchaîne sur l'Atlético.
Je disais que sur la manière de jouer dont le shérif a déjà parlé, c'est quand même un football. Allez, pas total, mais presque. C'est-à-dire que ça, il demande le maximum à ses joueurs.
C'est la Bundesliga.
Tout le monde n'a pas la. Voilà. Mais par exemple, je trouve qu'en France, Monaco joue aussi un peu dans cet état d'esprit.
Ouais.
Donc ça demande énormément d'investissement. Et ce que je veux dire par là, c'est que sur certains matchs, comme l'a dit tout à l'heure Philippe, tu te fais contrer.
Ouais.
Ce qui est arrivé à Monaco contre Benfica et encore ce week-end. Donc c'est des prises de risque. Moi, j'avoue que je suis totalement fan d'Adi Hütter en France. Ce qu'il propose, je trouve ça, je me régale. Avoir moi joué Monaco tous les
100%
week-ends.
100% d'accord.
Donc, j'adore Monaco. Donc c'est du risque.
Faut accepter le risque.
Mais c'est mais voilà, mais ça paiera.
Ça rassurera les supporters.
Entre le Barça et le Real, oui, il y en aura un des deux, ça va être champion de toute façon forcément.
Oui. Bon, c'est
ils sont là. Non mais ils sont là.
Parfois c'est l'Atlético.
C'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
J'ai rapidement avant de
parler de l'Atlético. Juste un dernier mot, n'oubliez pas qu'on est sur une séquence 2021-2024 avec des joueurs extrêmement sollicités dans leur championnat, les internationaux et notamment les jeunes internationaux. Qui à côté ont dû jouer l'Euro,
ça va pas s'arranger.
Les Jeux Olympiques, l'Euro,
Coupe du Monde des clubs,
ouais, ça va pas s'arranger.
Coupe du Monde des clubs,
la Ligue des Nations qui va jouer des matchs.
Coupe du Monde 26. Gavi, Pedri, comment ils ont cassé
les quarts de finale de la Ligue des Nations.
Voilà, et puis Yamal.
Il y a plus jamais de vacances. Il y a plus jamais de vacances. Donc
on est sur rapidement sur l'Atlético de Madrid. C'est vrai qu'on parle du duel évidemment toujours Barça-Real, mais derrière à combien de points? À 2 points, c'est ça, si je ne me trompe pas. À 2 points seulement, il y a l'Atlético qui revient bien aussi un petit peu compliqué, un début de saison un poil compliqué, puis 4 victoires de suite, et les revoilà dans le jeu du titre et de cette première place. Et je voulais, messieurs, avant de parler de l'Atlético, vous parler du but d'Antoine Griezmann qui a fait le tour de la planète. Quand vous avez vu ce but, est-ce que vous avez eu des exemples de buts comme ça qui vous ont marqué? Parce que là, on a l'impression que ça va être peut-être le but de l'année.
On parlait je crois que le shérif doit adorer, évidemment, Bergkamp, non ça fait penser
c'est le premier exemple.
Qui était un génie aussi du jeu. Voilà,
Gourcuff aussi, avec Bordeaux.
Oui, la roulette, le double contact.
Enfin, Griezmann, on n'attend pas qu'il fasse ça pour savoir qu'il a du génie. Hein,
c'est bien de le rappeler, pour certaines personnes qui pourraient...
Oui, le croire que parce qu'il est plus international, le gars, il joue plus au foot. Bon, c'est pas du tout ce qui se passe et il va nous manquer, hein, ça c'est clair et net. Donc... en équipe de France. Donc voilà, non, il sait faire. Et dans le jeu, l'Atlético, c'est toujours autant minimaliste. Moi, j'ai du mal.
Ils ont mis 11 buts la semaine dernière.
Après, oui, c'est ça. Ils ont passé 11 champions. Ils ont passé 11
champions. J'ai pas vu les matchs, je peux pas vous dire. Mais
non, on les a vus contre Lille, on les a vus. Voilà. Et bon,
contre le PSG, même contre le PSG, on a tristi.
Voilà, contre Paris, on peut pas dire qu'on ait pris beaucoup de plaisir avec l'Atlético.
Ils sont pragmatiques pour être.
Non, mais ce qu'il y a de fou,
pas toujours.
Ce qu'il y a de fou,
beaucoup.
Ils ne gagnent pas grand-chose.
C'est vrai. Ce qu'il y a de fou, c'est que depuis 15 ans, tous les joueurs qui passent par l'Atlético, ils adhèrent.
Ouais.
Enfin, je me dis. Choix, Marc, mais... Alors là, la dernière nouvelle recrue, c'est genre que j'adore, Alvarez.
Qui a pris un tout petit peu de temps à démarrer, chéri, si vous me permettez.
Il est même pas titulaire. Mais il me fait penser.
Mais là, il marque ces derniers temps, il marque un peu plus.
Ouais, mais il me fait penser à jouant Félix.
Oui.
Qui lui a pourquoi pas trop, des génies trop comme marché, ça vont se perdre dans des équipes, celle de Diego Simeone, ou ben courir partout.
C'est qu'elle a plus de vertus qu'on ne le pense.
Ils sont mal conseillés,
peut-être.
Il y a plus de vertus qu'on ne le pense. À commencer par Griezmann, qui adore cette équipe.
Oui, qui est le
Griezmann
qui est le
adore courir.
Oui, voilà.
Alvarez, c'est un buteur, c'est un goleador.
Il adore le jeu. C'est un génie du jeu, Griezmann.
Et je pense que c'est un argument pour beaucoup d'attaquants de venir jouer juste devant Antoine Griezmann. Voilà, une lutte à trois pour l'instant pour le titre. Le Barça qui vient de fêter son anniversaire, on en parlait en préambule, le 125e avec une défaite et gagné quand on souffle ses bougies. Il y a un club qui l'a fait en France, c'est Lille contre Rennes il y a deux semaines pour célébrer les 80 ans du club français. En 80 ans, Lille a connu des hauts, des épopées nationales avec des titres de champion, des Coupes de France, des épopées européennes, en Ligue des Champions notamment. Les bas, c'était il y a plus de 20 ans, quand Lille, dans les années 90, végétait en deuxième division. Alors évidemment, il nous faut un livre pour tout empiler, et c'est tout le sujet de cette dernière partie d'émission. On accueille en direct au téléphone Maxime Pousset. Bonjour Maxime.
Bonjour à tous, bonjour.
Maxime, vous êtes auteur de LOSC, 80 ans d'histoire et de fierté aux éditions Amphora. On a tous ici autour de la table pu feuilleter et décortiquer votre ouvrage. On a tous évidemment remarqué l'ensemble des interviews exclusives que vous y consacrez, des images d'archives. Je laisse à ceux qui voudront l'acheter plus tard, je ne vais pas tout révéler ici. Il y a évidemment plein d'anecdotes puisque le club a été créé en 1944, donc 80 ans, il y a toujours beaucoup d'anecdotes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous poser une question pratique. Combien de temps il vous a fallu pour compiler toutes ces informations et écrire ce livre ?
C'est toujours une bonne question. Bah, en fait, avant d'écrire un livre, il faut forcément déjà lire soi-même. Donc j'ai lu quasiment tous les livres qui existaient sur le LOSC pour vraiment me mettre à jour, parce que c'est vrai que cette histoire, je la connais moi en partie, mais pas depuis 44.
Parce que donc vous n'avez pas lu. 80 ans, voilà, vous rassurez.
Voilà. C'est ça, tout à fait. Et donc bon, j'ai lu beaucoup avant, et ensuite voilà, il a fallu, je pense, quelques mois pour l'écrire. Ensuite, après, il y a aussi beaucoup de travail sur l'iconographie, sur la maquette. Donc finalement, c'est un travail qui est assez long et qui est assez intéressant aussi.
Et vous avez surtout eu l'opportunité de rencontrer des légendes du club, que ce soit des personnes qui travaillent dans le club et des joueurs. Je vais en donner un pour donner l'eau à la bouche des auditeurs, mais vous avez pu rencontrer, je dirais, Eden Hazard, par exemple.
Tout à fait. Ben, moi, en fait, par ailleurs, je travaille au LOSC. Hein. Je suis rédacteur pour le LOSC, donc du coup, ça facilite les choses. Je l'ai rencontré dans le cadre de mon travail au LOSC et j'en ai profité aussi pour faire cette interview sur les 80 ans et sur le livre. Mais après, voilà, le but, c'était aussi de donner la parole à ceux qui ont fait, qui font et qui feront le LOSC. Et donc, que ce soit des joueurs, des dirigeants, même des gens plus anonymes qui ont des spécificités dans leur métier. Donc voilà, c'était le but, c'était de donner la parole à tout le monde.
Vous parlez des écussons de Lille, vous parlez des maillots, vous parlez du sportif évidemment, vous parlez du stade. On va commencer par le sportif. Lille, c'est un club qui a dominé le championnat de France pratiquement dès sa création, hein, dans les années 40, dans les années 50. Lille va connaître un vrai creux au milieu des années 80, les années 90, puis va renaître tout simplement au début des années 2000. Est-ce que je résume plutôt bien l'histoire, alors très résumée évidemment, très globale de Lille?
Ouais, c'est ça. En fait, c'est un club qui a été immédiatement performant dès sa création. Il faut savoir que bon, le football à Lille existait avant le LOSC. Le LOSC, c'est vraiment la création du club actuel, mais il y avait avant l'Olympique Lillois qui était l'ancêtre du LOSC. Donc, c'est une autre histoire, mais ça, c'était vraiment ce qui a préfiguré la création du LOSC. Donc, il y a eu vraiment une très grosse performance voilà, sur les 10 premières années. Ensuite, un très gros creux. Ça a même abouti à l'abandon du professionnalisme en 69, hein, vraiment, avec l'équipe était devenue amateur. Hein. Et puis voilà, après, ça a beaucoup stagné, l'ascenseur, très très longtemps. Et vraiment, après, un virage, et on entre dans l'ère moderne à partir des années 2000, avec l'époque Vahid Halilhodžić, où l'équipe passe de la D2 à la Champions League en un an quasiment, un peu plus d'un an. Quoi. Et là, voilà, d'ailleurs, on bascule sur l'ère moderne. Quoi.
C'est un peu Botafogo à cette époque-là, qui très récemment est passé de la seconde division à la Copa Libertadores. Il y a Ludovic Duchesne qui veut vous poser une question.
Alors Maxime, déjà, bravo pour ce bouquin. Je l'ai parcouru et je pense que ça fera un très, très beau cadeau de Noël. Bon, à part peut-être les Lensois, mais sinon, pour n'importe quel supporter de foot, je pense que ça peut plaire. Non, juste votre regard, Maxime, sur l'évolution du club. Je trouve que les dernières étapes ont particulièrement été réussies. Je parle du stade, je parle du centre de formation. Bon, c'est sûr que même cette année, je trouve que tout va dans le bon sens. Tout est bien fait, si on rentre dans les détails même de l'équipe. Voilà, je trouve que ça travaille très, très bien. Comment vous situez l'équipe d'aujourd'hui, entourée de tout ce que je vous ai dit, hein, par rapport aux équipes du passé ? Est-ce que Lille est au rendez-vous ? J'ai l'impression que Lille est à la hauteur de ce qu'un club moderne doit être aujourd'hui. Est-ce que je me trompe ?
Oui, bah c'est vrai que c'est un club qui est présent, on le voit régulièrement en Coupe d'Europe, on le voit régulièrement en Ligue 1 depuis 2000, donc on est en France parmi les clubs voilà, qui sont régulièrement en haut. Après, c'est sûr que ça n'a pas toujours été le cas, on le répète, dans les années 90, 80, et même encore avant, c'était pas le cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un jeune supporter qui est pour le LOSC et qui a 15-16 ans, bah finalement, il a connu tout le temps le LOSC en Ligue 1, il a connu le LOSC dans un beau et grand stade, il a connu le LOSC avec des vrais bons joueurs qui arrivent régulièrement et surtout un LOSC qui gagne des titres, qui est européen. Donc il faut toujours, voilà, jamais oublier que par le passé, il y a eu des périodes de vaches maigres.
Messieurs, avant de redonner la parole à Maxime Pousset, je voulais vous poser une question sur l'ensemble des grands joueurs qui sont passés par Lille. Alors là, on va peut-être penser peut-être plus de mal dans les années 40, mais on pense plutôt aux joueurs après les années 2000, les joueurs du 21e siècle. Pour vous, quelle est la grande légende lilloise, le joueur qui vous fait dire « Alors ce joueur-là, ça me fait penser à Lille directement, Chérif, tiens, pour commencer. »
C'est pas un joueur, c'est trois joueurs. C'était le milieu de terrain de Lille du début des années 2010. Cabaye, Balmont et Mavouba. On était dans le marasme total de l'équipe de France et je me disais « Bon, on va arrêter de tourner en rond, on prend le milieu lillois, ils sont performants, ils se trouvent les yeux fermés, il y a de la création, il y a de l'engagement. » Voilà, c'est ce que je retiens. Il y a des grands noms, je veux dire, on pourrait citer Jonathan David, il y a pas de souci. Oui, Eden Hazard, évidemment.
On va se garder Hazard un peu. Alors.
Oui, voilà, mais surtout voilà le trio en or, Cabaye, Balmont et Mavouba.
Oui, qui a l'origine.
Je ne sais pas ce qu'en pense Maxime.
Du doublé. Maxime, avant de vous redonner la parole, je vais interroger Philippe Doucet. Est-ce que vous avez un joueur en particulier ?
Oui, parce que moi, je suis attaché au moment beaucoup plus difficile. Je trouve que c'est intéressant de voir quand on surnage. Bon, ça, c'est ma culture rouennaise, la culture de la loose, je la connais par cœur. Et je trouve que Fernando D'Amico a incarné quelque chose dans ce club, dans les moments très durs.
Ouais, c'est vrai.
Et je trouve que cette fidélité et ce sourire, quand je l'ai vu là, pour la fête des 80 ans, ce sourire qu'il exhibait, ce plaisir qu'il avait à retrouver ce club et inversement de la part du public, je trouve que ça incarne bien quand un club va mal, il y a besoin aussi de ces joueurs, de ces caractères qui le sortent de l'anonymat.
Et qui est D'Amico, qui est toujours assez proche du club nordiste, Ludovic Duchesne.
Alors ça, je l'avais
un joueur, une équipe peut-être.
Je l'avais pas travaillé, donc c'est le cœur qui va parler. Mais Adil Rami, j'ai envie de ressortir Adil Rami parce que déjà son histoire est belle, qu'il est champion avec Rudy Garcia, c'est ça. Je ne me trompe pas.
Sûr,
voilà.
Oui.
Donc là aussi, il y a une magnifique histoire, une magnifique équipe. Et puis je le vois encore, je ne sais pas pourquoi, j'ai des images quand il parade le soir du titre, qui fait le guignol comme il adorait le faire.
La mascotte.
Il était dans la mascotte.
Ouais. Non mais Adil Rami, c'était fantastique à Lille. Donc ouais, j'ai envie d'aller Adil Rami.
Ouais, c'est...
Maxime Pousset, vous êtes le dernier. Pour vous, quel est le joueur qui vous a le plus marqué, celui où vous direz ça c'est la légende?
Bah justement, en fait, c'est une question qui est intéressante parce que, en fait, on a tous à chaque fois un attachement en fonction d'une époque. Quand on a aimé le club à un moment donné, donc en fonction de notre âge, de notre génération, on va aimer un joueur, une époque, une équipe. Alors moi, évidemment, moi, je c'est forcément le doublé. Je l'ai aussi vécu de l'intérieur. Je l'ai vécu assez intensément. Donc, je vais sortir les mêmes joueurs que vous. Mais après, voilà, quand je fais un livre comme ça, il y a aussi un travail qui doit se faire sur essayer de retrouver les idoles dans leur contexte de l'époque. Et à ce titre-là, je pense que la plus grande époque, la plus grande idole de l'histoire du LOL, ça devrait être c'est Jean Barat, en fait. C'est le tout premier grand joueur qui était vraiment le plus... En plus, il est formé à Lille, il est né à Lille. Ensuite, on va avoir effectivement Eden Hazard et puis Jonathan David aujourd'hui qui est en train de marquer aussi son époque. Donc, c'est, à mon avis, voilà, à l'échelle de l'histoire, ce sont les trois grands hommes qui ressortent.
Ouais, c'est un beau top 3. Évidemment, Maxime Pousset, on ne peut pas imaginer les 80 ans de Lille sans parler de Eden Hazard. Vous le mettiez dans votre top. Je le disais en préambule, vous avez eu l'occasion de l'interviewer. Eden Hazard, c'est la plus grande fierté moderne de Lille, la plus grande réussite moderne de Lille.
Ouais, vraiment. Je pense qu'il y a vraiment une génération Hazard au LOSC, en fait, parce que c'est un gamin qu'on a vu grandir chez nous, en fait. Et ça, pour tous les supporters de tous les clubs, quand un joueur est formé au club, c'est toujours différent que quand un grand joueur vient chez nous et vient jouer et vient même briller chez nous. Parce qu'en fait, on l'a vu éclore, on a tous su que c'était un crack qui allait exploser. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Et on l'a vu à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et ensuite, finalement, on l'a vu partir à Chelsea et au Real, en Ligue de Belgique. Et tous les Lillois ont toujours été fiers de lui, ont toujours été supporters des équipes dans lesquelles il évoluait. Parce qu'il y avait ce côté, voilà, il est de chez nous. En plus, c'est un petit Belge. Il y a vraiment un vrai lien assez fort entre Lille et la Belgique aussi. Donc, c'est vraiment un joueur qui est
Lillois. C'est le beaucoup. Plus grand joueur qui a joué à Lille, franchement, de par sa prestance.
Sans doute. Ouais.
C'est le plus grand joueur.
Bah, c'est toujours difficile de comparer après les époques, c'est vrai, parce que bon, quand on voit les stats de Jean Barat, c'est pareil, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Il a 221 buts.
Je parle au niveau du rayonnement du football mondial. C'est-à-dire que Eden Hazard, on disait que c'était l'un des meilleurs joueurs du monde. Je ne sais pas si c'était le cas de Jean Barat, ça, je ne peux pas me prononcer.
On ne peut pas comparer, mais avec des époques où les joueurs ne partaient pas à l'étranger. Ouais, c'est pas comparable.
Non, mais si tu, à l'époque, tu parlais de Coppa ou de Fontaine, tu pouvais dire qu'ils faisaient partie des meilleurs joueurs du monde. Jean Barat, je crois pas. Enfin, genre là, j'en fais appel à votre savoir. Hein. Je sais pas. Mais Eden Hazard, je sais. Donc, on savait qu'ils faisaient partie des meilleurs joueurs du monde déjà.
Oui, non, mais c'est vrai. Eden Hazard, effectivement, aujourd'hui, on peut considérer que c'est certainement le plus grand joueur qui ait joué au LOSC parce qu'il a brillé dans les plus grands clubs ensuite. Donc, oui, je pense qu'aujourd'hui, personne ne n'ira contredire ça, hein, c'est sûr.
Messieurs, avant de redonner la parole à Maxime, je vous demandais quel était votre joueur légende et quel était votre moment, un petit peu, votre grand souvenir de Lille, une épopée en particulier, un match, un trophée soulevé. Quel moment un petit peu charnière de cette équipe, Chérif Guémour, vous retenez?
Un Marseille-Lille au Vélodrome.
Eden,
le gros le Marseille d'Éric Guéret, 2-2. J'ai vu une machine de guerre lilloise. Là, j'ai dit, Claude Puel, on va rendre hommage à Claude Puel. J'insiste encore une fois, c'est lui qui a posé les bases de la grande équipe qui a été championne en 2011. Et je me rappelle, à partir de ce moment-là, parce qu'il y a pas mal d'équipes que je suis, évidemment, en Ligue 1 tous les ans, et les plus grosses, d'abord Lyon à l'époque, Paris, okay, d'accord. Mais ma troisième équipe, c'était Lille. Je regardais tous leurs matchs. Donc voilà, je crois que ça devait être 2005, 2006, 2007.
C'était une équipe qui vous parlait dans le jeu, dans ce qui dégageait.
Comment les joueurs se projetaient. Il y avait Bastos, je ne vais pas tous les citer. Et comment dire, il y avait un impact physique. Les joueurs étaient reliés par une sorte de télépathie. Ce n'était pas toujours très beau à voir, hein, parce que bon, quand même. Hein, c'était... Mais je me disais, voilà, avec un effectif tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de stars, il n'y avait pas des grands noms, des grands salaires. Il y avait la quintessence que dégageait cette équipe. C'était impressionnant. C'est personnel.
Ludovic Duchesne.
Alors, je n'ai pas la date. C'est Maxime et je pense Philippe vont me la donner. Mais la victoire de Lille quand ils vont gagner en Italie au Milan AC.
Laquelle? Il y en a eu deux.
Ah. Alors, moi, j'ai une victoire. Il n'y a pas eu 3-0.
Il y a eu 3-0 en Ligue Europa.
Il y en a une
en Ligue des Champions.
Voilà.
Il y a 2006.
En phase de groupe. Oui, c'est
ça.
2006, 2006.
Enfin, ça m'a marqué. Parce qu'à l'époque, en plus, c'était quand même.
C'est encore Puel, hein, je pense.
Toujours Puel, ouais.
2006,
ouais,
c'est Puel.
Oui, je pense.
À l'époque, c'était quand même peu fréquent qu'on aille gagner en Italie et de cette manière. Mais je me rappelle du boom de cette victoire. C'était assez inconcevable. Et ça avait été net et sans bavure. Ce match-là, je l'ai encore en tête. Donc, je dirais celui-là.
Philippe Doucet.
Bah moi, bizarrement, par rapport à vous, c'est plus récent. Puisque, non, c'est l'équipe championne avec Rudy Garcia. Parce que je l'ai vécu vraiment de très près. On allait beaucoup à Lille à l'époque pour les matchs du dimanche soir. Et j'emmenais beaucoup mon fils, qui en est resté supporter du LOSC. je voyais le bonheur dans ses yeux quand on sortait du petit escalier là, à Villeneuve-d'Ascq, à la sortie de ce stade minable, dans lequel pourtant on s'ennuyait jamais, malgré la piste d'athlétisme, malgré un cadre lamentable, c'est etc. Vrai. Donc ça, c'est quand même notable, parce que normalement, quand on voit un stade comme ça, on se dit, bon, là, on ne peut pas voir un bon match là. Ouais. Bah, si, on y arrivait, parce que Lille, c'était vraiment une super équipe, et le bonheur dans les yeux de mon fils, quand il croisait, il discutait avec Eden Hazard et autres. Rien que pour ça, je retiendrai d'abord
avec les pylônes aveuglants.
C'est un sacré souvenir. Le souvenir du stadium Lille Métropole. Maxime Pousset, vous qui avez eu l'opportunité de vous replonger un petit peu dans l'histoire complète de Lille, est-ce que vous avez un souvenir fort aussi personnel?
Eh ben en fait, je vais vous surprendre, mais finalement, moi, je vais parler du mois écoulé, parce qu'en fait, on vient de vivre un mois d'octobre qui était extraordinaire. On a quand même battu le Real, on a battu l'Atlético, on a gagné le derby, parce qu'il faut savoir aussi que dans le Nord, chez nous, le derby, c'est quelque chose d'important. Et donc, en fait, on a vécu en fait une série de gros matchs. Tous les trois jours, on avait un gros match, et on n'a pas perdu un de ces gros matchs, en fait. Et on le ressent dans l'engouement au stade, et même dans Lille. Et en plus, il y a eu les 80 ans, donc il y a vraiment... comment dire, l'institution LOS qui est très puissante en ce moment. On le sent vraiment, une vraie ferveur, un vrai engouement chez les gens. Et ça, moi, depuis que je suis au club, je l'avais pas encore vécu, en fait. Donc bon, ça veut pas dire que c'est pas un titre, évidemment. ce match contre le Real, c'est pas un titre, mais en termes d'émotion, c'était quelque chose d'assez fort, quoi.
L'histoire est en marche. Chérif Gamer, vous avez une question?
Oui, Maxime, j'ai une question. Il y a toujours quelque chose qui m'épate avec Lille, c'est la façon dont ils sont passés du stade Grimont-Préjoris, le Stadium Nord, et ensuite dans un stade que moi j'ai toujours cru surdimensionné pour Lille, même si je sais il y a une culture du foot, pas de problème. Mais on était sur des affluences de 18 000, 20 000, et là, on est projeté dans les affluences de 40, 45 000, presque 50 000 assez régulièrement. Comment vous expliquez ça? Moi, ça m'épate. Parce qu'en général, pour tous les clubs, on pourrait citer le cas de Bordeaux, le cas de Nice, qui ont construit des stades ne serait-ce que de 35 000, c'est un échec total.
Oui. Le Mans aussi.
Et Le Mans, ce qu'on appelle les éléphants blancs, et ça n'a pas été le cas avec Pierre Mauroy. Comment vous l'expliquez?
Pas beaucoup.
Alors déjà, on a une histoire particulière avec ça. En fait, nous, on est un des rares clubs finalement qui a eu plusieurs stades dans notre vie, hein, parce que ça, contrairement, on va comparer à Marseille ou au PSG, qui ont eu vraiment, qui sont au Vélodrome ou au Parc depuis longtemps. Nous, dans notre histoire, on a eu voilà Henri Joris. Ensuite, il y a eu Grimont-Préjoris. Grimont-Préjoris, à la base, il devait être agrandi. Hein, il devait avoir Grimont-Préjoris 2, qui devait voilà être un stade modernisé. Ça s'est pas fait, on s'est retrouvé au stadium. Finalement, voilà, il a fallu trouver un nouveau terrain, un nouveau stade. Ce grand stade a mis du temps à se construire. Donc les Lillois ont vraiment, vraiment rêvé. On l'a tous vu grandir, ça a été long. Et si bien que le jour où ça arrivait, c'est vraiment au sortir du titre, hein, au sortir du titre 2011. Hein, on
oui, ça a joué, bien sûr.
C'était 2012. Ouais. Et donc en fait, il y avait vraiment une montée en puissance. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, le stadium qui n'était pas forcément plus confortable, les stades. Par contre, on a vécu un spectacle qui était extraordinaire là-bas. Il y avait vraiment une équipe qui était très belle sur le terrain. Et si bien qu'arrivé en 2012, voilà, on arrivait vraiment tout en haut de la coupe, quoi, parce que les gens avaient hâte, en fait, avaient hâte de voir cette équipe extraordinaire sur le terrain dans ce grand stade qui était le plus grand à l'époque, hein, dans cette nouvelle vague de nouveaux stades, d'ailleurs qui est toujours le plus grand. Et voilà, et c'est ça le fait qui a fait que vraiment c'était ce côté où on s'est pendant des années, on s'est retrouvé dans un stade qui était pas adapté au spectacle, et le jour où il arrivait, il y a eu vraiment un effet waouh, quoi.
Et il y a aussi, il faut le dire, il y a eu un remarquable travail du club, parce que ce n'est pas souvent le cas dans les clubs français. Donc là, on peut le dire, il y a eu vraiment un club qui a travaillé dans une très bonne continuité. Époque Michel Seydoux, il y a encore Aurélien Delespierre, et encore de cette époque-là, il est encore au club, au marketing maintenant. Il y a eu toute une kyrielle de gens, de qualité dans ce club.
Pour fidéliser le public, et les jeunes, les femmes, les familles.
Beaucoup, beaucoup travaillé sur le public. Tout beaucoup, beaucoup, et avec réussite.
Bon, on va remercier Maxime Pousset pour toutes ces précisions. Vous êtes l'auteur de LOSC, 80 ans d'histoire et de fierté. C'est disponible aux éditions Amphora. Ça peut être un super cadeau pour chaque supporter de foot, vous le disiez, Ludovic Duchesne. Merci beaucoup, Maxime Pousset, Radio
merci
Foot.
À vous, merci
c'est
à vous.
Terminé pour aujourd'hui. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation active.
Merci, Sofiane.
À ces débats. Radio Foot, ça revient demain. Je remercie également Pierre Guérin à la présentation et à la réalisation, Lorraine Nemoza. On se retrouve demain. Ciao, ciao. Bonne soirée.